Ça commence, hein. Allez, ouais, générique. Bonjour. Bien sûr, tous les goûts sont dans la nature et ce n'est pas parce que tout le monde aime quelque chose qu'on doit se sentir obligé de l'aimer à son tour. Dans le vin, force est de constater quand même que certains cépages suscitent plus ou moins d'engouement. Le Pinot Noir, par exemple, intrigue et fascine des vignerons dans le monde entier de par sa capacité à vieillir et à exprimer la diversité des terroirs. En blanc, le Chenin est de cela. On le dit capable d'exprimer une variation infinie d'arômes et de saveurs, de produire de grands vins, tant en sec qu'en liquoreux ou en pétillant. Le territoire du Chenin, c'est la Loire, et ce n'est pas une, mais deux émissions que nous allons donc lui consacrer pour tenter de percer son mystère. Ce 34e épisode s'intitule « Tous les chemins mènent au Chenin ». Bienvenue dans la Terre à boire. Et on se retrouve donc toujours sur les chemins de la Loire et on se retrouve au Wine Therapy pour enregistrer ce dernier cycle de la saison. Au Wine Therapy, donc en bonne compagnie, donc avec Laurent Delso. Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Bah ça va bien, moi je suis chez moi, je suis content de vous recevoir.
On est ravis d'être ici. Patrice Defay est là également, notre pilier.
Bonsoir.
Bonsoir.
De bar et de... d'émissions.
De bar, de podcast, ouais. De cave à vin. Ouais. Content de revenir en Loire ? De continuer sur et d'attaquer la montagne
oui,
du Chenin.
Parce que plus on avance dans la Loire, plus on découvre des choses fantastiques. Donc intéressé pour continuer sur ce petit Chenin.
Et ce petit Chenin du chemin du Chenin. Et on a un invité. Voilà, un invité que je suis ravi d'accueillir, Benoît Autier. Bonjour.
Bonjour.
Benoît, tu es libraire
dans
une librairie que je connais un petit peu, qui s'appelle la librairie des Batignolles, dans le 17e arrondissement à Paris. Rue des Moines, c'est
ouais,
ça ?
Juste à côté du marché.
Voilà, les gens qui connaissent un peu ce coin des Batignolles connaissent cette librairie. Et puis, en plus d'être libraire, tu es un œnophile, passionné.
Oui, un amateur.
Un amateur.
Avant tout.
C'est pour ça que tu es là.
C'est pour ça que je suis là.
On va dire l'histoire. C'est Patrice qui est un de tes clients habitués avec qui vous échangez sur le vin.
Ouais, non, mais voilà, la petite histoire, c'est que bah, moi, je vais toujours dans cette librairie. Et puis, bah, tiens, ça change de propriétaire en septembre. Alors, les propriétaires d'avant étaient géniaux. Donc, oh, zut. Le prochain, il va être nul. et puis, en fait, j'y suis allé. Et puis, j'ai discuté un petit peu avec Benoît. En fait, c'est Karine, hein, d'abord.
Bah, oui.
Ma femme qui a parlé un petit peu de Benoît, puis ils ont parlé rapidement vin, donc je me suis dit, tiens, on va aller voir, c'est un argumène. Et en fait, voilà, on a pu. Il m'a fait découvrir un certain nombre de bouquins que je ne connaissais pas du tout dans le domaine du vin, et c'est comme ça que le lien s'est créé.
Oui, alors, pas de pression, juste une femme. Un cadeau de Noël pour mon mari, il est passionné.
Ouais, c'est ça.
Et j'ai pas trop fauté, j'ai eu de la chance. Ouais. Et grâce à ça, on a pu se rencontrer, parler du podcast. Et c'est ce qui fait que je suis là ce soir, très content. Ben merci beaucoup.
C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les livres sur le vin. Évidemment, on ne va pas se priver de parler d'un vin. Et on a dit qu'on allait parler des chenins. On en a deux même à goûter, des chenins secs, et on est impatients de les déguster. Parlons un petit peu de cet univers du livre sur le vin. D'abord, est-ce que toi, tu as un rayon vin dans ta librairie ?
J'en ai trouvé peu, donc j'ai préféré un peu étoffer. D'abord, c'est un plaisir.
Tu as créé un espace quand même de la librairie dans lequel on trouve
le rayon cuisine. Voilà, le rayon cuisine était pas trop gros. Je pense qu'il y a des demandes, il y a des choses intéressantes qui sont faites par les éditeurs. Et j'ai étendu la profondeur de stock dans l'ensemble de la librairie, mais j'ai jugé que c'était quelque chose à la fois qui m'intéressait, dont je parlerai, j'espère, pas trop mal, et surtout qui pouvait plaire au public. Sachant qu'au Batignolles, on aime plutôt bien vivre, que les cavistes sont légion et les restaurants également, j'ai jugé que c'était utile.
De mémoire, la librairie, elle est en face d'un fromager et dans la même rue, on trouve au moins deux cavistes, peut-être trois.
Ouais, c'est exactement
ça. Il y en a
ça.
Trois, mais
ça,
ouais. Il y en a trois cavistes.
Hein. Plus un de bière, qui est très bien.
Quelqu'un qui fait de la bière ?
Ouais. Quelqu'un qui vend de la bière et qui est vraiment très bien.
Ok.
Ouais, très intéressant.
Alors, on a eu l'occasion plein de fois au cours de cette saison de parler de livres. Parler de livres sur le vin, en vrac, on a parlé de plusieurs bandes dessinées. Là, ce qui me revient, c'est Les Ignorants, qui est un peu un classique, qui n'est pas du tout une nouveauté, mais qui est un grand classique de la BD sur le vin. D'Étienne Davodeau, on a parlé de Pur Jus aussi, qui vraiment se concentre sur les vignerons nature, les vignerons en biodynamie. Il y a un livre...
Un grand Bourgogne oublié.
Le tome 1 et le tome 2. C'est le livre à travers lequel on avait contacté Laureline Laborde en Jura, d'ailleurs.
Mmh, exactement.
Une belle rencontre dans l'émission. Je me souviens que le premier livre dont j'avais parlé, c'était Le vin, c'est pas sorcier, d'Ophélie Neyman, qui est un peu un guide pour les néophytes. Voilà. On a eu plein de fois l'occasion de parler d'une revue qu'on aime beaucoup ici, qui est 12 degrés 5. Est-ce que le sentiment, moi, que j'ai comme ça, hein, spontanément, c'est qu'il y a effervescence de livres, de parutions sur le vin. Est-ce que tu confirmes ou est-ce que c'est juste parce que nous, on s'intéresse à ce sujet qu'on trouve plein de livres ?
Je confirme. Je pense que c'est un secteur qui se développe, d'autant que la culture du vin est plus plutéiforme qu'elle ne l'était à une époque. On est sorti de l'époque, certes, où on achetait moins cher, mais où dans les années 80, le guide achète et quelques guides former le catalogue des livres sur le vin. Il y avait un ou deux atlas et ça s'arrêtait là.
Les guides de choix de vin Exactement. Étaient l'essentiel de la parution sur le vin. Aujourd'hui, ça
avec
ça a
quelques ouvrages
changé.
Illustrés sur les grandes maisons, mais tout ce qui était vin un peu décalé n'existait pas. De toute façon, les vignobles...
Les vins n'existaient pas, donc les livres sur ces vins
Les vins nature,
pas.
Les vins en bio étaient quand même peu légion. Les quelques précurseurs dans les années 80 ne se revendiquaient pas de la sorte. Enfin, du moins, je ne crois pas. Et ça a amené effectivement des gens à s'y intéresser, donc des éditeurs à s'y intéresser. Je pense que quelqu'un comme Jacques Glénat, en bande dessinée, mais pas que, vu qu'il fait également des beaux livres, a été, à travers sa passion...
Parce que Jacques Glénat est un passionné de vin ?
Vraiment.
D'accord.
De sa région et des vins, donc... Donc,
il est originaire de
quelle région ?
De Grenoble.
De Grenoble, d'accord.
Donc en septembre, il y aura quelque chose sur la Chartreuse, mais il va y avoir à nouveau des ouvrages sur des grands châteaux. Et puis en bande dessinée, beaucoup des titres dont tu n'as pas parlé à l'instant, mais toutes les productions de Corbeyran, que sont Château Bordeaux, Bodega, In Vino Veritas, qui s'expriment, ou même le grand... Un grand Bourgogne oublié, on en a parlé, mais il y a encore un autre... Le Clos de Bourgogne, je ne sais pas si vous avez lu la série. Il y a un tome 2 qui
paraît
en juillet.
Encore,
c'est encore de la BD, sur, évidemment, après avoir fait Bordeaux, la Bourgogne. Et puis quelqu'un comme Édouard Leclerc qui, mine de rien, en bande dessinée, a également une certaine influence, a, à travers la passion dans le vin, développé pas mal et excité les gens à vouloir produire. Donc ce ne sont pas les deux seuls, loin s'en faut, mais ils ont été des acteurs majeurs qui ont permis de développer dans ce secteur-là. Par rapport à la production sur les ouvrages sur le vin, la multiplicité des guides et la production de plus en plus qualitative a amené des éditeurs à s'y intéresser. Je pense que leur goût aussi les a amenés à ça. Et effectivement, il y a de plus en plus.
Qui confirme que le vin est de plus en plus un phénomène culturel. Puisqu'on
oui.
plus d'écrits, de littérature, de bande dessinée, de...
À quand le monde prix de littéraire du meilleur livre sur le vin.
Peut-être.
Un jour. Oh. Et c'est un des trucs qui est un peu fondateur de cette émission, c'est de se dire, enfin, d'un constat un petit peu de départ... que le vin, l'image en tout cas du vin, le statut qu'il a dans la société a un petit peu évolué en fait culturel plutôt que simplement en boisson. Est-ce que tu dis viens finalement un peu le confirmer ? C'est-à-dire qu'avant, c'était surtout le guide qui permettait de choisir qu'est-ce que je vais boire. Et là, cette partie guide a été un peu remise en arrière-plan finalement.
Effectivement, l'époque du guide achète où c'était la Bible et où les gens allaient chercher directement chez le producteur, c'était l'un des avantages. Moi, je crois que c'était la démarche entreprise par les gens, est un peu cassée au profit de sélection de producteurs qui s'inscrivent dans des courants de pensée et qui, grâce à ça, conviennent intellectuellement à certains hédonistes qui se plaisent à boire, ce soir un peu de chenin, mais plutôt de qualité, à travers des gens qu'on aime bien rencontrer et dont on peut dire qu'ils font attention à ce qu'ils mettent dans leur vin et donc dans nos verres. Et je pense que c'est important. Peut-être on est aussi, nous, plus soucieux de ce qu'on boit, pas obligatoirement en quantité, mais en qualité.
Oui, il y a deux aspects au-delà de ça, c'est le côté quête de sens, effectivement, où on se dit, ben voilà, il faut maintenant qu'il y ait du sens, qu'il n'y ait pas d'intrants, etc., d'où le développement bio et s'intéresser au bio. Puis moi, ça m'évoque aussi le fait que voilà, maintenant, les nouvelles stars, ce n'est pas les chanteurs, c'est les cuisiniers. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau du monde de l'artisanat ou une remise en valeur de se rapprocher de la terre.
De France,
de se rapprocher de la terre, les émissions Top Chef, etc. Enfin, il y a un côté, je pense, goût de l'artisanat envie de faire des choses aussi avec ses, entre guillemets, avec ses mains et proche de la terre et proche du terroir et proche du produit.
Donc toi, concrètement, tu as des clients, à part Patrice, qui viennent dans ta librairie pour choisir des livres sur le vin, pour voir quelles sont les nouvelles parutions, qui sont vraiment des passionnés de ce secteur, ou c'est...
En dehors de lui, il y en a peu. J'ai un client.
En tout cas, il y en a un qui vient qui n'est pas bourré tout le temps.
C'est ça. Non, j'ai un client également qui était très intéressé par les vins de Bourgogne, qui se déplaçait dans les vignobles et qui avait besoin d'aide. Donc dans un premier temps, tout comme il existe des atlas assez génériques, soit sur les vins de France, soit sur les vins du monde. Et Jean-Pierre de Monza, il y a maintenant 5 ou 6 ans, je crois, avait fait paraître un gros ouvrage sur les climats de Bourgogne, qui a intéressé, mais ce ne sont que des cartes et des... même pas des classements, juste des noms relatés pour chaque production. Néanmoins, à côté de ça, Hachette a fait paraître un texte anglais très intéressant de Jasper Maurice qui s'appelle « Au cœur de la Bourgogne » qui recense aujourd'hui les producteurs importants, qui développent à la fois l'histoire et la qualité des terroirs. Et des gens comme ça viennent aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé ces livres-là et probablement quelqu'un qui en parle avec eux en accompagnant leur démarche. Regarder ce qu'on peut trouver à travers la BD, la littérature quand on en trouve, c'est pas si simple que ça pour que ce soit de qualité.
Ouais. Justement, quand on dit effervescence de parution, les éditeurs, on les connaît, ils ont tendance à sortir, s'il y a un petit filon qui fonctionne, ils vont sortir beaucoup de choses. Toi, est-ce que tu prends tout pour faire exister justement cette offre ou tu sélectionnes quand même, il y a du bon et du moins bon
Alors, la librairie n'est pas gigantesque.
Nous, on aime bien plutôt dire du bien des choses et de ne pas parler des choses qu'on n'aime pas. Mais
non, en faisant 60 mètres carrés, la librairie se doit de toute façon d'être un filtre à la production. Je ne vois pas tous les acteurs du marché, donc il y a certaines choses à côté desquelles je dois passer qui sont sûrement passionnantes. Simplement, les productions régionales qui parfois ne sont pas distribuées au national, tout comme certains vins, je pense qu'ils n'arrivent pas tout le temps sur toutes les tables. Mais dans l'ensemble, j'ai la possibilité de toute façon de choisir tout ce que j'achète. Je n'ai aucune obligation. Donc je prends ce que je pense être intéressant, soit sortant de l'ordinaire, soit... sortant un peu du cadre classique, je pense à une BD que j'ai essayé de vendre à Patrice, mais il a toujours pas mordu, qui est un peu particulière, mais qui s'appelle Cosmo Bacchus, qui vient de paraître d'un monsieur qui s'appelle Mébec, chez Edola Édition, autant dire toute petite maison, et qui, contrairement à
Cosmo Bacchus,
au courant de pensée classique,
c'est un mix de SF et de
non. Du tout. C'est d'abord, semble-t-il, l'auteur Mébec est quelqu'un qui a été formateur dans les écoles Steiner. Donc il connaît plutôt bien la thématique
de
la
biodynamie. Le célèbre théoricien de la biodynamie.
Voilà, et qui égratigne un petit peu l'image des vins en biodynamie, ou tout du moins le dogme qui voudrait laisser penser que si c'est en biodynamie, c'est nécessairement bon. Ouais. Il revient un peu dessus, il cherche également à montrer que les gens n'ont pas besoin de dogme pour bien faire, il faut simplement bien faire, avoir l'envie de bien cultiver, et que c'est déjà... plus important que le reste. Donc parfois on peut trouver des pépites comme ça. En
et
fonction.
Ça, t'as trouvé des clients pour le prendre
Parce que c'est pointu, j'ai trouvé là, quand même. Deux clients pour l'acheter. Je n'ai pas eu de retour de lecture encore. Moi-même, je suis pas encore certain d'avoir tout compris vu que vraiment la philosophie de Steiner est développée. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà
un conseil intéressant, parce qu'on a eu l'occasion plein de fois nous de parler de bio, de biodynamie, de Steiner, de ses théories. Là, si on a ça un peu mise en musique en BD, moi ça m'intéresse en tout cas.
Ok, je vais l'acheter.
Oui, bah oui, Patrice,
c'est bon, je vais l'acheter. C'est bon.
On parle de vin ?
On parle de vin.
Donc tu le sais, on est dans un cycle Loire et on attaque ce cépage emblématique de la Loire, le Chenin, qui a ses amateurs. Hein. Je pense que c'est une façon de se définir pour certains œnophiles. J'aime le Chenin. Et on a choisi deux expressions en sec. Différentes. Je vous laisse nous présenter ce qu'on va déguster, messieurs.
Ben le Chenin, déjà, il a un lien littéraire parce que le mot a été inventé par Rabelais.
Oui, ça nous fait le lien parfait, ça.
C'est bon littéraire, mais parce qu'il s'appelle soit Plan d'Anjou, soit Pinot de Loire. Ça, c'est les autres noms du Chenin. Donc voilà, le Chenin est un vin littéraire. Dans sa définition, après, on en parle avec pas mal. On a parlé avec Daniel l'autre jour. C'est un cépage assez formidable parce que c'est un cépage qui peut se faire dans toute la diversité, c'est-à-dire aussi bien en liquoreux, en sec qu'en pétillant. Et surtout, c'est un vin qui est assez peu de ce qu'on appelle dans le variétal, c'est-à-dire qui s'impose pas, c'est pas le cépage qui s'impose, le cépage fait parler le terroir.
C'est
en fait.
Une éponge un peu, il voilà, transmet
il fait parler le terroir, donc il donne plein d'expressions complètement différentes. En fonction de, bien sûr, comment il est fait, comment il est élevé, et aussi comment, sur quel terroir, sur quel sol il est cultivé.
À l'inverse, un peu, on pourrait dire du Cabernet Sauvignon, par exemple, le cépage de Bordeaux qui a tendance à s'imposer. Un Cabernet Sauvignon, ça
voilà,
se boula.
Ou même en Médoc, on est un peu plus proche au Sauvignon qui a quand même des caractéristiques variétales assez
qu'on retrouve partout. Le Chenin est plus polymorphe.
Exactement. Donc c'est un cépage intéressant qui donne plein d'expressions spécifiques à son terroir en fait.
Pour autant, en France, il est surtout ciblé sur la Loire, à ma connaissance. Même si on a dit que le Riesling alsacien était un lointain cousin, mais Laurent.
C'est un cépage effectivement de Loire. Maintenant, il y a des essais dans le Languedoc. Dans le Languedoc, il y a des assemblages qui sont faits à base de...
C'est le jeu des appellations qui fait qu'à un moment, un cépage est en Loire et il reste en Loire. Parce que si tu le mets dans du Languedoc, tu perds... si tu le mets dans un Côte-du-Rhône, tu perds potentiellement l'appellation Côte-du-Rhône.
Oui, alors là, complètement.
Donc, il y a un jeu comme ça.
Mais le Languedoc a cette beauté d'être encore assez vierge sur l'utilisation des cépages.
C'est ça.
Et donc, il y a beaucoup de... Enfin, c'est un terrain de jeu fantastique pour les vignerons. De planter des choses qui pour faire des expériences. Et moi j'ai en tête des créments, enfin des méthodes traditionnelles qui mélangent du chenin, du mosaque et du chardonnay en Languedoc, qui donnent des choses très très sympas. On a aussi des assemblages de roussanne et de chenin. Enfin bon, il y a moyen de se faire plaisir avec le chenin sur d'autres terroirs que la Loire, quoi.
Le chenin, donc, c'est plutôt un cépage tardif, donc qui mûrit plutôt tardivement. Donc il est plutôt cueilli... on va dire assez tôt et à faible maturité pour son approche en sec. Et il est plutôt laissé plus longtemps, jusqu'à fin novembre, et botrytisé. C'est un cépage qui supporte bien le botrytis,
la pourriture noble,
le champignon, pour faire donc des expressions qui vont du un tout petit peu liquoreux jusqu'au très 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 liquoreux. Quoi.
Qu'est-ce qu'on boit ? Benoît, tu es venu avec un vin d'un vigneron qui est assez célèbre, on peut le dire quand même. Hein.
Oui. C'est Jacques Iblot.
C'est Jacques Iblot.
Sur un Claude Meunier 2015, qui vient du domaine.
Domaine de la Taille au Loup.
Et...
Domaine de la Taille au Loup, Mont-Louis-sur-Loire, Claude Meunier, cuvée Monopole.
Producteur que moi j'ai découvert pour la première fois avec son pétillant, le 000, si ma mémoire est bonne, qui m'avait plu, que j'avais trouvé à la fois... intéressant, surprenant, grand rapport qualité-prix. C'est aussi toujours un critère que je garde en tête. Je trouve ça important.
Ça, c'est une
caractéristique de la Loire.
Une constante des vins de Loire.
Ouais,
d'excellents vins, 20 euros, et c'est beaucoup moins cher que beaucoup d'autres territoires.
Oui, et puis, effectivement, donc, pour les acheteurs, c'est devenu une terre de prédilection dans la mesure où les autres terres sont devenues parfois un peu trop onéreuses.
Donc il y a des jeunes vignerons qui viennent s'y installer.
Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que je pense que les parcelles n'étaient pas si chères que ça, ou tout du moins moins chères qu'ailleurs peut-être, pour beaucoup de jeunes vignerons qui ont voulu tenter. Et grâce à ça, on a des gens qui aujourd'hui vinifient, je trouve, de façon intéressante. Bon, Jacques Iblot est... Ne lui en déplaise, peut-être pas un jeune vigneron, je crois qu'il a déjà quelques années de pratique. Je crois que ça fait plus de 30 ans qu'il fait partie des anciens, avec Sylvie Augereau, avec
Charles Leroy.
Oui, et puis.
Arcangeli.
Nicolas Joly aussi, je crois, sur une expression toujours un peu particulière. Ça fait partie des vignerons que j'aime bien. Il y en a d'autres, mais lui, je l'aime bien. Ça me faisait plaisir.
Ce serait dommage de ne pas aimer.
Laurent, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce vin déjà en termes de couleur? On est dans du doré hyper lumineux.
La lumière ici ne permet pas vraiment d'apprécier la couleur exacte du...
Ça manque de néon, ton bar.
Oui.
Cette lumière
tamisée.
C'est
un peu tamisé, oui, je sais. Donc ça a tendance à rendre les choses un petit peu plus dorées qu'elles ne sont. Mais enfin, on est quand même sur un vin qui a une jolie couleur qui va sur le doré. On est sur des choses qui sont complètement limpides, transparentes. Et on passe vite au nez. Et, Et là, je trouve que bon, bah, on se fait plaisir, on retrouve bien ce qu'on attend d'un chenin sur des choses qui sont quand même très mûres. Bon, on fait souvent l'opposition, puisqu'on est dans la Loire, entre le Sauvignon blanc et le chenin. Et bon, moi, j'ai toujours un petit peu de problème avec le Sauvignon blanc, avec ses arômes variétaux. Là, dès que je plonge le nez dans un verre de chenin, je me régale. Parce qu'on est, sur quelque chose qui est très fruité, très limite exotique, là, carrément, je trouve. Mais on a aussi une bonne minéralité. On sent que ça va être un vin qui va être là, traité en vin sec, et non pas...
C'est quand même tendu, hein, il y a une belle acidité. Ouais.
On le pressent au nez, et c'est confirmé assez rapidement en bouche. Bah oui. Mince, et il y a un blanc.
Et il y a un blanc.
Tout le monde savoure.
Tout le monde déguste.
Oui, après, on est sur un millésime 2015, donc c'est assez solaire. Il y a pas mal de richesses qu'on sent de manière assez immédiate. Et puis un côté quand même hyper minéral. Enfin, les côtés pierre à fusil qu'on sent calcaire, quoi. Alors je ne sais pas si le sol est calcaire, je pense que oui.
Bah, les territoires de Mont-Louis, on est vraiment sur du tuffeau. Hein.
Donc, le classique.
Tu ne peux pas te tromper.
Avec lequel on fait les châteaux de la Loire.
Oui,
on ne les fait plus aujourd'hui, mais ils sont faits de tuffeaux, hein, on le rappelle. Et puis ça donne lieu à des caves dans lesquelles on élève.
Oui, alors c'est aussi la grande richesse de cette région, c'est sa capacité à stocker les vins dans des crayères, enfin l'équivalent de crayère, quoi. On est dans des...
Comme en Champagne.
Dans des caves, dans le tuffeau. Bon, il y a un habitat troglodytique en Touraine qui est assez réputé. Et donc, c'est là qu'on conserve le vin à Mont-Louis, de la même façon qu'à Vouvray.
Est-ce que c'est un vin qui va voyager dans le temps, celui-là ? À 2015, on peut le garder ?
On espère bien, il va grandir, il va
se développer ?
Oui, c'est typiquement le genre de vin que tu as envie d'acheter par caisse. Et bon, vous connaissez la petite histoire.
Et goûter régulièrement. Parce que là, objectivement, il est très bon. Qu'est-ce qui va se passer avec le vieillissement ?
Bah, comme il a pas mal de minéralité et qu'il est sur un millésime assez costaud, il va durer un petit peu dans le temps. Il y a quand même de l'acidité, de la structure, donc il va développer plein d'arômes et évoluer normalement positivement.
L'idée, c'est effectivement la complexité aromatique qui va aller en s'amplifiant avec le vieillissement. Ouais.
Qu'est-ce qui te plaît à toi dans le chenin, Benoît ?
Question piège.
Ouais, un peu. Non, un nez, effectivement. La première chose qui m'est séduite quand j'en ai bu, je trouve que c'est très intéressant. Je suis, si je dois le dire, plutôt fan de Chardonnay, et je trouve que c'est difficile de trouver un cépage de blanc qui soit plus intéressant. Donc j'ai essayé d'autres choses, naturellement, Sauvignon, sur du Bordeaux, ou même sur des vins de Loire, effectivement, en amont. J'ai essayé des vins du Sud, et un jour j'ai goûté le chenin et j'ai trouvé que c'était quelque chose non pas se rapprocher du chardonnay, parce que c'est pas du tout les mêmes vins, mais en revanche moi je trouvais le même plaisir à boire l'un que l'autre dans la minéralité. Je trouvais une expression de fraîcheur peut-être qu'on retrouve un peu plus au nord dans la France que d'autres vins, et puis une salinité toujours présente. Effectivement, un cépage intéressant qui peut muter. Et c'est toujours drôle, sauf quand on ne le maîtrise pas. Et de temps en temps, on pense acheter un sec et qu'on ne tombe pas sur un sec. Ça peut arriver chez certains, devant leur volonté d'être très respectueux du raisin. C'est intéressant pour ça, mais ça peut surprendre. Après, c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Je trouve que Jackie Blow, je retrouve son style, vu que ça m'arrive d'en boire un peu. Et effectivement riche. Peut-être plus riche que d'autres producteurs d'ailleurs, qui même sur une année solaire comme ça chercheraient à avoir un vin plus tendu encore. Mais c'est tellement bon que c'est le plaisir de boire, en fait.
C'est un vin magnifique.
Effectivement, ce qui peut rapprocher peut-être le chenin du chardonnay, c'est que c'est l'équilibre dans les blancs, c'est-à-dire que c'est à la fois vertical et horizontal, c'est-à-dire tendu, minéral, etc. Donc hyper vertical et horizontal, dire plein d'arômes. Un Sauvignon va être beaucoup plus vertical, tendu sur la variété et développer peut-être probablement moins de complexité. Donc c'est peut-être ce qui s'en rapproche, c'est que ces deux cépages. Après, après notre expérience corse, on pourrait dire que le Vermentino retrouve à la fois cette côté droiture, minéralité, exubérance. Le Vermentino, comme disait Arena, faut qu'il aille chercher peut-être beaucoup plus loin dans ses racines la minéralité qu'un Chenin qui est plus au nord. Mais je pense que ce qui peut rapprocher les deux, c'est l'équilibre au sens beaucoup de verticalité, beaucoup de minéralité qui peut les accompagner dans le temps, et donc qui les aide à évoluer sur des arômes secondaires, tertiaires, mais aussi beaucoup de largeur, de variété d'arômes et de panels d'arômes.
On a un deuxième, c'est luxe, hein, c'est la fin de la saison, on a un deuxième chenin sec.
Là, c'est la 38e journée, 37-38e.
Oui, c'est ça, c'est la fin de saison. Dernier match. Voilà. Avant-dernier match, pour tout dire. Et c'est un autre chenin sec, et c'est toi, Laurent, qui nous le présente, qui nous le propose, en même temps que tu sers le verre. Oui, tu vas pouvoir faire tout ça en même temps.
Est-ce que je vous parle du vin en même temps que j'essaie de le servir ? Je ne suis pas sûr. Donc j'ai choisi une autre expression du chenin en sec, parce que je considère qu'il y a vraiment deux régions au sein de la Loire qui travaillent le chenin, qui ont des expressions du chenin très différentes. C'est d'un côté la Touraine avec le Mont-Louis qu'on vient de goûter, et de l'autre l'Anjou. L'Anjou et notamment l'appellation Savenière. Qui est sur là, on est sur des terrains de schiste, et donc ça va donner un vin très différent. Donc là, on est sur le domaine de Loïc Mahé, qui est en Anjou, en appellation Savenière. La cuvée s'appelle Les Fougerets, et je crois qu'on est sur un millésime 2014. Donc c'est un vin. Alors Loïc a planté ses premières vignes.
On ouvre Désolé, des bars, mais on plante des vignes.
C'est la déformation professionnelle. A ouvert ses portes au début des années 2000. Il a eu un coup de cœur pour le Chenin, pour cette région, et a planté ses vignes, donc ses premières vignes en 2000. Après, il a racheté également d'autres parcelles. Et bon, c'est quelqu'un qui me touche, enfin que je trouve très attachant, très modeste, comme beaucoup de vignerons talentueux, je trouve. Et il fait quelque chose qui est...
Alors, c'est très différent.
Ben, j'espère bien, parce que sinon, ça ne serait pas amusant.
C'est vraiment très différent. Moi, je trouve que c'est vraiment
très
différent.
J'espère que c'est différent dans le sens où on prend autant de plaisir, mais différemment.
La robe est peut-être un tout petit peu plus soutenue.
On est sur quelque chose de plus doré, il m'a semblé, ouais. Oui.
Et puis alors, au nez, c'est toujours le même problème. Je ne trouve pas les bons mots, mais il y a une vraie différence.
C'est plus étroit en nez que le Mont-Louis.
Alors, bon, la consigne de vote sur le Loïc Mahé, c'est quand même de le carafer.
C'est la consigne que t'as donné le vigneron.
Oui, tout à fait. Et bon, et je l'ai vérifié. Donc voilà, là,
on trouve qu'on
l'a carafé un petit peu tard.
Pas très longtemps.
Un petit peu tard. Et donc, il n'a pas la...
Tout cela a secoué nos verres. Oui, oui, bien sûr. Il est en train de s'ouvrir.
Tellement qu'on le secoue, il est en train de s'évaporer même.
On a quelque chose de beaucoup plus rond en bouche.
Je trouve que la texture est différente.
Oui.
Il glisse différemment. Il est moins aérien. Il est plus...
Il est limite plus sirupeux, enfin,
oui, c'est ça.
Si on
se
peut
peu.
Dire. Mais
du tout sucré pour autant. Il reste très sec, mais
je
ne
connais
un peu
pas.
Je
connais pas le mode de fonctionnement de Jacques Blot en détail, mais bon, Loïc, lui, effectivement, laisse travailler ses levures indigènes comme elles le sentent. Donc, on a toujours un peu un risque, ce que tu disais, hein, c'est que finalement. Les levures se fatiguent avant d'avoir absorbé tout le sucre. Donc là, on en a.
Le fameux sucre résiduel qu'on trouve parfois.
Voilà, bon,
là, c'est pas le cas.
Là,
on
c'est
peut pas
le
dire
cas,
qu'il y a du sucre.
Mais on se trouve qu'on a quand même une impression d'un peu plus de sucrosité malgré tout.
Oui, alors moi, ce que je trouve, c'est
dans la texture.
C'est moins exubérant, c'est beaucoup plus floral, je dirais que. Alors qu'on était beaucoup plus fruits exotiques et un peu plus exubérants.
Oui, tout à fait.
Donc
ouais.
Je trouve ça beaucoup plus floral en fait. C'est peut-être ça qui donne aussi le côté sucrosité.
Et
on est plutôt sur des fleurs sucrées, on va dire, que sur des.
Et on retrouve pas la salinité qu'on avait
on pas le
dans
côté
le précédent.
Salin.
Moins. Mais on retrouve en revanche l'appellation.
Oui, il y a toujours l'amertume, enfin, la petite amertume qui est très
agréable
en fin de bouche de chenin, qui est quand même assez, enfin qui est un peu la signature du chenin.
Merci, et parce que tu mets le, toi, le mot sur cette sensation que j'avais.
T'avais un doute sur cette sensation. Oui, oui, il y a une touche d'amertume.
Un petit amer à la fin.
Peut-être qu'il paraît un peu moins séducteur, néanmoins. C'est un vin excessivement équilibré. L'alcool est peu présent, alors que, enfin, je ne trouve pas trop présent, alors qu'il est relativement jeune. Mm-hmm. Je ne me souviens plus du tout si 14 est une année chaude. Je crois que c'est une année normale.
Oui, en 14, il est même à 14 degrés, hein, le vin, ce qui est beaucoup.
Ouais, ça
pour
se sent
un,
pas
pour
beaucoup.
Il y a une richesse.
Je lis l'étiquette là, c'est pas, j'ai pas de oui, 14 non, en goûtant là.
Oui, non, mais
au nez, il y a une vraie richesse aromatique. Hein, plein d'arômes, plein de saveurs. Je me déteste parce que je trouve pas les mots dans ces cas-là. Alors je compte sur vous, messieurs.
Non, mais t'as qu'à dire c'est bon. Hein. Enfin moi, non mais.
Le truc le plus.
Non.
C'est bon, ouais, c'est
mais,
bon.
Mais
c'est
enfin
bon.
Encore, une fois, vous connaissez mon point de vue sur la question. On peut se gargariser de mots, etc. Ma consigne à mes clients et donc à nos auditeurs, c'est écoutez votre palais, écoutez le plaisir que vous prenez, ne vous préoccupez pas de savoir si vous savez mettre les bons mots dessus. Ce qui compte, c'est ce que vous appréciez. Et peu importe les mots savants. Enfin, ça, c'est ma vision des choses.
T'as raison. Ouais, j'écoute mon palais. C'est un vin qui prend de la place dans la bouche, qui se fait une place, qui tapisse vraiment bien et qui te laisse comme ça, qui est long, qui garde. On garde cet arôme en bouche. On se sert des tout petits verres. Et
ça, c'est ce que tu dis, mais en fait.
Et ça reste longtemps. Voilà, c'est un
je te rappelle qu'on est dans un bar à vin, donc il faudra payer la bouteille qu'on est en train de déguster.
Oui,
donc t'en as mis un peu trop dans ton verre.
C'est juste que je vais essayer de me réserver quelques neurones pour la suite des enregistrements.
Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'aller sur l'Anjou, parce qu'effectivement, c'est des terrains. Enfin,
Donc là, c'est plus le tuffeau.
Des géologies très différentes.
Oui, c'est plus schiste volcanique, c'est ça.
Oui, tout à fait. Mais, en fait, on a le massif armoricain qui descend sur l'Anjou et qui.
Schiste bleu, me glisse-t-on.
Oui, alors je crois que.
La couleur des schistes,
plus précis, parce qu'il y a une espèce de frangipane, mais un peu un millefeuille de schiste vert et bleu. Donc c'est encore plus complexe que ça. Mais c'est un gros passionné de géologie, Loïc, et donc il parle très très bien de ça.
Il vient de, enfin, c'est son premier métier. Il faisait quoi avant?
Bonne question.
Il a repris relativement tard.
Oui,
il
était libraire. Effectivement.
Fou, il fallait pas abandonner.
Ah, ce sera une question à lui poser.
Néanmoins, il y a plus d'avenir dans le vin.
Alors, bon, je pense que l'épisode va être diffusé après ce week-end, mais en l'occurrence, ce week-end, il est sur Paris. Enfin oui, c'est ce week-end, au Parc Floral, il y a un salon...
C'est fin mai, en fait, voilà, ce week-end.
Fin mai, il y a donc un salon des vignerons en bio, des vignerons indépendants en bio, et il sera présent, et il est assez présent sur les salons.
Et c'est un vin qu'on peut boire ici, chez toi.
C'est un vin qu'on peut boire ici, j'ai plusieurs références de Loïc Mahé, parce que je suis fan.
Et il fait quoi comme type de vin, donc en dehors de celui-ci?
Alors, il y a évidemment des anjous doux. Et puis il fait aussi il a un peu de rouge aussi, mais c'est essentiellement, il travaille essentiellement chenin. Ouais.
Pour compléter ce que tu disais, c'est qu'effectivement on n'a pas eu beaucoup de chiffres jusque là, donc, mais c'est vrai que c'est entre 10 000 et 15 000 euros le mètre carré en Loire, alors qu'on est à 150 000 par exemple en Sancerre, donc c'est 10 à 15 fois moins cher. Donc ça permet à beaucoup de deuxième vocation de s'installer, hein, d'autres métiers, et donc d'avoir des expressions, je dirais pas moins dynastiques. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui viennent que d'un héritage, des gens qui viennent avec, qui font justement des vins d'auteur et qui viennent avec leur vision un peu novice et feuille blanche du vin. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, en Loire, c'est un des endroits les plus intéressants, par la taille, la diversité. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas issus du vin, qui sont venus, et qui sont venus avec des idées neuves et des pratiques aussi de plein d'autres métiers que le seul métier de vigneron.
Alors, moi, je pense en plus qu'ils ont été bien accueillis pour la plupart les personnes qui étaient là depuis plus longtemps.
Oui.
Et qui, que ce soit les Bretons, que ce soit effectivement Sylvie Augereau ou même le grand Saumur, je ne sais plus comment s'appelait.
Le Rougeard, non.
Oui.
Oui, qui était.
Je crois qu'ils étaient là aussi pour transmettre.
Il y a le domaine Renaissance, enfin ce qu'on appelle, il y a un label Renaissance qui a été mis en place pour aider, accompagner les jeunes vignerons et qui les aide pendant un an à aller vers la biodynamie, quoi.
Pour terminer, on a juste l'habitude de dire qu'est-ce qu'on mange avec un chenin sec. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous proposeriez, messieurs?
Ben, moi, j'irais sur, sur un poisson, genre une sole meunière, par exemple. Ça me ferait bien D'accord. plaisir. Okay. Plutôt sur le premier hein, que sur le deuxième. Le deuxième, j'irais peut-être sur un plateau de fromage. Moi, j'aimerais bien manger ça sur un plateau de fromage.
Des chèvres, des choses comme ça, oui.
Oui.
Le fameux accord vin blanc fromage qui désormais fait fureur.
La charcuterie aussi de là-bas.
Ah oui.
Okay. Ouais, des rayons, c'est sympa.
Benoît, il y a un terme qui a été employé, comme tes livreurs, j'ai envie de t'en parler. On parle de vin d'auteur. Est-ce que cette notion te parle? Est-ce que tu penses qu'on peut faire ce parallèle entre la création du vigneron et puis l'écriture d'un livre? Cuisine d'auteur, vin d'auteur, est-ce que c'est des mots, tout ça ou...
Je vends des livres, je n'en écris pas. Ouais. Je n'ai absolument pas cette vocation. Néanmoins, une chose permet de rapprocher les deux métiers. Un écrivain se construit dans la création de son œuvre, qui passe généralement par la multiplicité. Vu qu'on va le faire par rapport à une chronologie, ce matin, Philippe Roth est mort. C'est toujours triste de voir partir un grand nom, quelle que soit la corporation. Son œuvre s'est créée à travers des romans pendant 40 ans où on retrouvait constamment une patte, tout comme chez certains cinéastes. Je pense que les vignerons ont la possibilité, année après année,
d'apposer leur signature sur leur...
sur des choses qui sont liées à des millésimes et que tout le monde reproduit, de pouvoir montrer qu'on peut faire d'une certaine façon. Et c'est ce qui permet aux néophytes comme nous, de temps en temps, en jouant à l'aveugle, de pouvoir reconnaître certaines fois, par chance ou parce qu'on vraiment on connaît bien les vins. Donc je pense qu'il y a des vins d'auteur, effectivement, parce que je pense que un vin, c'est un seul, une saison, mais c'est surtout un individu qui les exploite et qui donne sa raison d'être à ce qu'il y a dans la bouteille.
Et qui exprime tout ça. Ben merci, merci beaucoup, Benoît. On te retrouve à la librairie des Batignolles, rue des Moines, dans ce quartier si agréable et si sympathique de Paris, dans le 17e arrondissement. On va continuer notre chemin hein, en Loire, et on va continuer, même terminer la saison, avec un deuxième épisode consacré au chenin. Et on va s'intéresser aux autres expressions du chenin. On vient d'en goûter deux secs qui étaient, ma foi, assez magnifiques. L'un de Jacques Blot et l'autre...
Domaine de la Taille au Loup.
Voilà. Et l'autre de Loïc Mahé.
Exactement.
Je crois bien.
Loïc Mahé Vigneron, les Fougerets en Savagnin.
J'ai un doute sur le prénom. Deux expressions très intéressantes d'un chenin sec. C'est des vins qui sont très abordables. Hein. On parle de combien la bouteille là? Je ne sais pas s'il faut finir sur ces notions de prix.
Je ne sais plus. Je crois que j'ai payé entre 16 et 18.
Voilà, on est à moins de 20 euros la bouteille. Et on est dans des choses qui ont une expression assez magnifique.
Et de la garde.
Pour être qui se garde aussi. En Bourgogne, sur cette qualité-là, il faudrait peut-être payer beaucoup plus cher. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera le dernier de cette saison. Voilà. Et on fait ça au Wine Therapy en préparant, évidemment, en ayant dans le viseur la saison prochaine. Mais on finit cette saison avec les Blancs de Loire. Au revoir, messieurs.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
À bientôt. Ciao.